Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show cette semaine avec Louis Prévost. Ça fait longtemps que j'essaie d'avoir un podcast sur l'endurance aérobie, puis plus précisément sur le rameur en CrossFit. Je pense que c'est un des appareils qui est le plus utilisé, c'est souvent un qui est plus mal fait. L'endurance dans le monde de l'entraînement fonctionnel n'a pas tendance à avoir comme la même considération que la force ou que la gymnastique. Où est-ce qu'il y a un gros aspect genre science, où est-ce qu'il y a un gros aspect technique qui est mis de l'avant? Puis l'endurance, je trouve que c'était vraiment comme quelque chose qui était délaissé dans le monde du CrossFit. Fait que ça fait longtemps que j'essaie d'aller voir ça. Puis je suis vraiment, vraiment content d'avoir eu Louis sur le podcast cette semaine pour vous parler de ça. Louis, c'est un. Louis est allé aux Olympiques en aviron. Tu sais, à quel point ça, c'est malade. Il va parler de son expérience un petit peu aux Olympiques aussi à la fin du podcast. Mais c'est aussi un coach, puis un entraîneur de rameurs, puis il se spécialise vraiment là-dessus, il donne des cours de ça. Fait que vous avez un podcast qui est très très intéressant si vous venez dans le monde de l'entraînement, si vous venez du monde du CrossFit. Puis je pense que vous ne serez pas déçus de tout ce que vous allez apprendre, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais avant de vous présenter le show avec Louis, le Momentum Show cette semaine vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Et ce, sans plus attendre, Momentum Show de cette semaine avec Louis Prévost.
Super. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, la grande visite, j'ai l'immense plaisir d'être avec Louis Prévost. Louis, merci d'être là, c'est vraiment apprécié.
C'est un plaisir fou.
Louis, tu as une maîtrise en sciences d'activité physique, tu as un bac en sciences d'activité physique.
Ouais.
Tu as une expérience olympique en aviron.
Oui, en 76.
En 76, qui est assez malade.
La majorité de ceux qui écoutent, et toi compris, ils n'étaient probablement même pas une lueur dans les yeux de vos parents
à l'époque. Fait que Louis, il a vu des affaires à l'entraînement. Louis, il est là depuis un bout. Puis tu as aussi, en ce moment, tu donnes des cours, puis tu es entraîneur de rameur et d'aviron, si je me trompe.
En fait, je coach sur la machine à ramer, puis je donne des cours. Je fais les deux.
Okay? Ouais,
je donne et des entraînements. Et des cours chez Synergie Performance à Trois-Rivières.
Puis c'est là qu'on s'en compte. D'ailleurs, lui, il m'a torturé sur un 1000 mètres. Puis il n'est pas satisfait, il veut me torturer sur le 1000 mètres. Il m'a dit, tantôt, on va commencer.
Le 2000 mètres, c'est vraiment avec ça qu'on va être capable de déterminer une prescription d'exercice puis de faire progresser les gens sur le plan cardiovasculaire.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que la durée de l'effort. Okay? On dit que pour aller chercher un VO2 max pour faire un test qui vaille la peine, c'est entre 3 minutes et demie et 7 minutes et demie. Si tu n'es pas maso, un test aux alentours de 3 minutes et demie va te donner une idée. Si tu es maso, c'est que tu te rends jusqu'à 7 minutes et demie. Donc, quelque chose là-dedans, puis un 2000 mètres chez des gens, chez des hommes en forme qui font du CrossFit depuis un certain temps, on tombe dans ce range-là, entre 6,50 et 7,20, 7,30, parce qu'il y a des gens qui ont des gros défauts qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de.
C'est là que tu vois que j'ai corrigé, genre,
ouais.
Un peu plus. Mais encore plus basique que ça, pourquoi est-ce que je fais un 2000 mètres? Qu'est-ce que ça me donne? C'est quoi l'intérêt pour un athlète?
En fait, c'est le 2000 mètres, c'est la distance reine à l'aviron. Okay? C'est la distance olympique.
Ouais,
et tout le monde se mesure sur un 2000 mètres. Okay. Et auparavant même, en 76, les femmes faisaient un 1000 mètres. Okay? Puis après ça, ils ont changé ça. Tout le monde est sur 2000 mètres. C'est une question de logistique en arrière de ça. Oh, parce qu'il fallait déplacer des kits et des affaires. Fait que c'est plus simple. Tout le monde fait un 2000 mètres maintenant. Et en ligne, il y a des données sur 2000 mètres. Si vous voulez vous comparer, si vous voulez voir ce que vous valez mondialement, allez sur le site de Concept 2, il y a un log, vous pouvez downloader toute votre information là, mais vous aussi, vous pouvez voir, vous avez 30, 35 ans, vous avez 20, 25 ans, vous avez 60, 65 ans, vous pouvez voir ce que vous valez dans votre groupe d'âge.
C'est vraiment cool que tu partes avec ça, je pense vrai, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme idée, tu sais, le monde ne sait pas ces détails-là. Si tu parles, mettons, le monde sait, je vais le ramener à 20,50 pour tant de temps, mais ils n'ont pas de mesure objective, fait que ça devient difficile de te faire un entraînement. Calculer avec ça, dans le fond, tu sais, ouais.
Les gens connaissent tous leur max, que ce soit au deadlift, que ce soit au squat,
tous les mouvements
olympiques. Puis, malheureusement, parce que j'ai vu quelques autres boîtes de CrossFit aussi, là, les gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, la machine à ramer. Ils n'ont aucune idée de comment se faire une prescription d'exercice.
C'est malade, tu l'as tout le temps. C'est un des appareils les plus utilisés en CrossFit, comme tu dis.
Oui, oui. Puis c'est une des. Moi, je trouve que c'est un des appareils intéressants que je prêche pour ma paroisse, bien sûr.
Pourquoi tu trouves que c'est un appareil intéressant?
Parce que c'est un. un appareil où il n'y a pas d'impact. Fait que si tu as une blessure, je vais reprendre l'expression des commentateurs de sport, tu as une blessure au bas du corps, okay, que ce soit n'importe où, n'importe quelle articulation, puis que tu n'es pas capable de courir, que tu ne veux pas partir en vélo, tu as une machine sur laquelle, je mets le mot en guillemets, là, tu peux te faire mal. Okay? Tu es capable d'avoir une intensité très élevée. Tu sais, je t'ai fait faire un 1000 mètres. Un 2000 mètres, tu souhaites que quelqu'un t'achève avant de le finir, le 2000 mètres. C'est vraiment...
C'est comme ça que tu sais que tu l'as bien fait.
Oui, tu sais que tu l'as bien fait. Okay? En anglais, là, on parle de road kill. Okay, R-O-W-E-D, et non pas des charognes.
Tu me donnes vraiment envie de tester mon
truc. Oui, oui, c'est vrai.
Lorsque tu sois à côté de moi,
je ne crie pas. Je ne crie pas. Je ne crie pas.
Mais oui, c'est vraiment intéressant. Comme tu dis, là, cette idée-là, puis je pense que c'est délaissé. L'idée, tu sais, il y a un art, il y a une science à l'entraînement cardiovasculaire en CrossFit qui n'est pas là, mais tu as la même métaphore en CrossFit. Tu prends le deadlift, tu prends l'épaulé, tu prends le jeté, tu prends l'arraché. C'est super contrôlé, super. Tu sais,
non seulement ça, mais c'est les gens savent ce qu'ils font, mais en plus de ça, moi, ce que j'ai vu dans les quelques boîtes de CrossFit où j'ai été, c'est qu'il y a un accent très important sur la technique. Okay? Il y a des moments donnés où quand des gens font des watts où ils se balancent la technique, je pense que c'est là qu'il y a des accidents, puis il y a des blessures qui arrivent. Mais moi, ce que j'ai vu, puis principalement chez Synergie Performance, il y a un accent important, je vais prendre un anglicisme, ouais. Il y a une emphase qui est mise sur la technique. On veut que les mouvements soient bien faits. Okay? Mm-hmm. Un, pour être efficace, efficient, mais aussi pour éviter les blessures. Okay? Et je comprends pas pourquoi, sur la machine à ramer, il n'y a pas cette préoccupation-là. C'est peut-être moins pom, 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 OK? Dropper des barres, faire du bruit, c'est très spectaculaire, OK? Ouais. Avoir un goût de baumé dans son coin quand tu as fini ton entraînement, c'est moins spectaculaire, ça, sa machine à ramer.
Mais c'est intéressant aussi parce que, comme tu dis, il n'y a pas nécessairement une conception de ça, mais il y a des risques de blessures à ramer, il y a une question de performance aussi qui n'est pas là.
Oui.
Je pense pas que ça vient... Moi, j'ai l'impression que ça vient plus du monde du CrossFit en tant que tel, parce que le CrossFit ne met pas tant l'emphase là-dessus, tandis que l'haltéro, là, l'emphase est beaucoup mis. Mais tu sais, le fait reste que je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Il y a un problème. C'est quoi les problèmes que tu vois avec ça, ou c'est quoi les erreurs plus fréquentes?
Ah, mon Dieu. Il y a une dizaine d'erreurs communes.
Tant
que
ça
que tu peux trouver. Il y a une dizaine d'erreurs communes que tu peux faire. Il y en a qui te pénalisent plus que d'autres, OK? Ou sur le plan du temps, ou sur le plan de la santé, entre autres la santé dorsale. Wow. Okay? Il y a des... Au Summer Pelosa qui a eu lieu, que tu as aidé à organiser, là, que
c'est
au mois de mai, dans ce coin-là.
Ouais, c'est au mois de mai. Hey, bonne mémoire!
au mois de mai, il y a des... J'osais pas me promener en arrière de certains athlètes. J'avais peur que les vertèbres puis les disques ressortent en arrière. Okay? Mmh. Et ça, c'est juste une chose. Mais en plus de ça, sur le plan de la performance, il y a tellement d'énergie. Il y a des beaux athlètes là-dedans. Il y a du monde là, qui ont potentiel. Puis qui, sur le plan technique, perdent probablement entre... je serais même pas généreux en disant ça. Entre 10 et 30 % de leur...
Le
wattage. Perdre du wattage.
Tu peux en intéresser le couple. Je pense que c'était elle, puis tu disais, regardez, si vous apprenez, vous allez avoir 30% d'efficacité, là, ça va être intéressant. Fait que toi, tu parlais de vraiment, mettons, comme moi je faisais quand on testait, vraiment comme on dit le dos en.
Ça en est une, c'est que si tu gardes pas. En fait, le mouvement d'aviron, c'est un espèce de mélange, de synergie entre un mash-up de un deadlift, un squat, puis un high pull. Okay? Okay. Tu mets les trois morceaux ensemble, là, ça ressemble beaucoup à ça.
Okay. Okay?
Tu as des morceaux ça ressemble, tu prends ces trois choses-là, tu les mélanges ensemble, puis à un moment donné ou un autre, dans le coup d'aviron, tu as ça. Okay?
Ouais.
Mais je pense que la faute la plus commune, puis encore, tu avais un collègue qu'on n'aimera pas, mais qui ramait avec toi quand tu as fait ton 1000 mètres, qui était assis juste à ta gauche. Okay. T'as du sang.
Je vais te demander, c'est sûr qu'il nomme.
On va pas
c'est ça. Ça. Okay.
Mais en quelque part, okay, il avait désolidarisé okay, ses épaules de son bassin. Ça fait que les fesses partaient en arrière.
Ouais.
Fait qu'il perdait à peu près ça de long de la coulisse. Okay.
Ben oui, c'est ça.
La puissance de ses jambons. Okay. Puis il essaye de compenser avec son tronc. puis avec ses bras. Ça, c'est l'erreur qui va amener le plus de perte de puissance. Ouais. Il y a plusieurs autres erreurs où on va avoir des gens qui viennent rencontrer la poignée avec les épaules, okay, qui vont s'en venir vers l'avant, au lieu de faire vraiment, de finir comme quand on se prépare pour un deadlift juste ouais. avant de partir, on ramène les omoplates, rétraction des omoplates, okay. On a une tension qui est créée dès le départ, puis là, à ce moment-là, quand on vient finir notre coup, OK, faut finir dans la même position qu'on commence lorsqu'on est en avant. Il faut que le haut du dos soit fort. Ça prend un creux lombaire, pareil comme quand on part un deadlift. OK? Et les gens ont tendance à oublier ça. Quand on pousse sur les jambes, ça ressemble au squat. OK? Ça arrive souvent chez des, je vais pas dire chez des filles, parce qu'on voit surtout ça chez des filles, une hyperlaxité ligamentaire. OK? Ou les genoux tombent par en dedans. À ce moment-là, c'est les mêmes conseils que quand tu fais un beau squat, OK? Pousse avec l'extérieur de ton pied, cherche à ouvrir un petit peu ton pied à l'intérieur des pédales sur lesquelles t'es à côté.
Tu sais, t'avais une métaphore tantôt qui est malade. Moi, je pense juste ça, si les gens retiennent ça, ça va avoir la peine de faire ça en ce moment, tu sais, de dire... T'as dit, le mouvement d'avant, c'est un mix entre un squat, un deadlift et un high pull. Okay? Oui. Dans aucun de ces mouvements-là, t'aurais quelqu'un qui aurait le dos rondi, puis ça serait toléré, acceptable. T'sais, le monde, il taperait dessus,
oui.
éventuellement.
Oui.
Mais du rameur, le dos rond, c'est très, très fréquent.
Très courant.
Fait que ça, je trouve ça vraiment très cool que tu partes avec ça. T'sais, non seulement il y a une perte de force, il y a une perte d'efficacité, puis en plus,
il y a un risque de blessure.
Il y a un risque de blessure qui est là.
Juste
de conscientiser les gens là-dessus, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Il y a une science en arrière. Pareil, c'est le même. La façon dont on s'en va pour calculer un max au deadlift, au squat ou n'importe quel mouvement avec une barre,
okay?
il y a une façon d'arriver à ça, c'est la même chose. Okay? C'est ma façon de me préparer pour quand je vais arriver, après avoir fait mon échauffement qui dure 7 minutes et demie, quand j'ai fini mon échauffement.
Ah, t'as quand même un échauffement. Hein?
Oui, mais c'est un effort qui va être intense, t'as plus de 1000 mètres.
Okay? Ouais.
Fait qu'il faut que tu t'offres ça pendant 5 minutes, okay? Que tu sois sur la pente, ta puissance aérobie maximale, c'est-à-dire, la pente, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est ta capacité de transport d'oxygène, ton VO2 max, multiplié par l'efficience, OK? Comment tu es capable de transmettre l'énergie sur cette machine?
Avant même de tomber là-dedans, ça va être vraiment intéressant. Ça, je pense qu'on a comme pas trop chaud d'en parler parce qu'on a une grosse expérience là-dessus qui peut être super pertinente et super intéressante. Mais dans le fond, on va commencer à parler de concepts d'endurance cardiovasculaire. Fait qu'il va y avoir des termes qui vont sortir, des choses qui vont sortir en ce moment. C'est important de comprendre que ces trucs-là sont applicables au rameur. T'sais. Fait que tu vas me sortir, mettons, des définitions, puis c'est un peu comme si on parle de termes d'entraînement. C'est ça que tu vas me dire, c'est ce vocabulaire-là qu'on va utiliser pour le cardio en ce moment. Parce que je pense que
c'est celui que j'utilise dans mes cours, parce que à l'âge que j'ai, je suis pas un kinésiologue, je suis un éducateur.
Ça change okay?
Non, ce que ça change, okay, ouais. C'est que j'ai une préoccupation pour que quand j'ai fini de donner les cours et les entraînements, les gens sont autonomes après ça. Ils sont capables de travailler par eux-mêmes.
Non, c'est vrai.
Okay? Et de s'auto-corriger aussi.
J'ai fait un cours avec toi, puis il y a eu une grosse emphase qui a été mise sur la technique, qui a été mise sur ça. T'sais, il y a plein d'affaires quand j'en sport que je pense juste à cause que tu m'as tapé dessus, puis tu me l'as dit. Je pense que c'est bénéfique en outil, tous ces trucs-là.
Comment ça que t'expliques quand tu dis taper dessus?
Ben, je sais pas, t'avais une note. Non, mais tu sais, tu me pointais des erreurs, puis tu me corrigeais ouais. pendant que je faisais.
En fait, c'est pour là que t'es ça.
C'est
la même chose. Parce que quand je vois les coachs au Synergie reprendre les gens, okay? Et jusqu'au plus petit point de détail, mais en quelque part, si tu veux faire un mouvement, si tu veux le faire de façon efficace, si tu veux être capable de monter tes max, tu n'as pas le choix, il faut que tu apprennes à le faire comme il faut. Okay? Les gens qui passent des barres à un mètre de leur corps okay, avant de la ramener, des gens qui ne rentrent pas les genoux quand tu fais... En tout cas, et j'en suis, bien sûr, mais en quelque part, là, c'est la même chose sur la machine à ramener.
T'as bien raison. Fait qu'on connaît tous nos max, on connaît toutes nos affaires pour un deadlift, pour un squat, pour un rameur. C'est quoi ton max? Comment est-ce que tu quantifies ça un peu plus?
On parlait de 2000 mètres. En fait, moi, ce que je cherche à faire quand je donne une session d'entraînement, tu dois te connaître, et ça, c'est une bonne façon d'apprendre à se connaître. Tu dois apprendre, je vais utiliser le mot latin, à te pacer, c'est-à-dire à te donner une allure que tu vas être capable de respecter.
C'est le monde font pas,
que tu vas être sur la ligne rouge. Mais tu dis ça, le monde ne font pas. Je regarde des athlètes au gym, puis je regarde la façon dont les top coconuts, là, travaillent, ils prennent...
Les top coconuts? Ah, ouais. Le terme est tellement cool, c'est sûr que je te le vole.
Ils savent quand ils font des burpees, quand ils font des muscle-ups, quand ils vont faire des répétitions de wall bar, ils commencent à savoir c'est quoi l'allure. Okay? Puis ça, c'est une bonne façon, dans un environnement contrôlé, d'apprendre aussi. Et là, ça m'emporte un moniteur ici. Okay? Je te dis exactement où tu en es. Okay. Et lui, tu peux ramener comme tu veux. Lui, il m'emporte.
Non, c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant ça. Tu parlais d'allure, tu parlais de pêche, tu me disais il y a une façon de développer ça. T'entends quoi par développer ça?
C'est qu'en ramène à des cadences différentes, ouais. Okay, ou à des intensités différentes, tu viens que tu sais l'effort que tu es après fournir. Okay?
Ouais.
Moi, je m'entraîne, je pourrais cacher le moniteur, puis je pourrais te dire que je rame à 24 coups minutes, à 27 coups minutes, à 28 coups minutes, puis je pourrais te dire que je rame à 1,57 par 500 mètres, ouais. Que je suis à 1,45. Ou...
Tu
viens que tu le sens, ça, faut en faire.
Ouais. Okay?
Puis il faut transcender ta technique, il faut que ta technique soit rendue assez bonne pour que tu puisses, à un moment donné, rentrer plus dans l'effort comme tel, là, même si tu dois toujours te concentrer sur ta technique.
Mais tu m'as parlé de BAM, puis tu m'as parlé de VO2max. Est-ce que tu peux définir ces deux termes-là et donner leur intérêt pour monsieur tout le monde qui écoute en ce moment, qui vient du CrossFit?
En fait, le VO2max, c'est la capacité de transport d'oxygène. Okay? C'est-à-dire, c'est ta capacité, si on oublie cette partie-là, c'est ta capacité de faire un effort pendant une durée entre 3 minutes et demie à 5 minutes et demie. Okay? Et cette mesure-là va permettre, après ça, de faire une prescription d'exercice. Okay? Puis, comme je disais, la PAM, je ne sais pas si tu veux que je le dise autrement, je ne sais pas vraiment comment dire autrement. La PAM, c'est vraiment ta capacité de transport d'oxygène multipliée par l'efficacité. Moi, ce que je dis aux gens, quand ils viennent suivre un cours, venez 6 à 8 fois, puis je vous garantis que je monte le wattage que vous êtes capable de fournir là-dessus là, de 10 à 20 watts. Okay?
Okay, ouais.
Et ils ne feront même pas sur leur capacité. En fait, ils vont le faire juste sur le gain en efficience sur la machine.
C'est dans le monde de l'endurance en général, il y a une grosse partie qui est axée sur l'efficience. Je viens du monde de la course. En fait, ouais. C'est important, ces affaires-là, ça a une grosse différence. En vélo, c'est important. Ouais. Dans tous les sports d'endurance, mais. Ça, c'est comme moins implanté là-dedans, et je trouve très intéressant que tu amènes ça aussi, tu sais. Puis, si je comprends bien, dans le fond, la PAM est plus spécifique à l'appareil. Fait que j'aurais une PAM sur le rameur, j'aurais une PAM sur le airbike, puis j'aurais une PAM sur le...
Quand on parle en vélo, j'ai une PAM qui est différente de là-dessus, parce que j'utilise plus de groupes musculaires là-dessus que j'en utilise sur mon vélo. Et t'en as aussi une pour la course à pied, okay? Qu'à ce moment-là, on ne parle pas de PAM, mais on parle de vitesse aérobique maximale.
Ouais,
parce que la beauté de cette petite machine-là, c'est qu'en quelque part, on calcule exactement le wattage qui est fourni.
C'est quoi l'avantage de travailler en wattage? Je sais dans CrossFit, les unités qui sont pas mal utilisées par défaut,
c'est la calorie. C'est la calorie. Okay? La calorie, l'algorithme, le petit ordinateur qui est là en avant, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule en watts.
Okay? Ouais.
Et là, comme il n'y a pas de place là-dedans, comme dans certaines autres machines, pour rentrer ton poids, okay, on a dit, c'est bon pour quelqu'un de 175 livres. Fait que les calories qui sont calculées pour quelqu'un qui pèse 175 livres. Okay?
Qui sont, corrige-moi si je ne me trompe pas, les catégories de poids d'aviron.
En fait, c'est 170 livres. Là,
170,
c'est,
okay, ouais.
C'était mis là probablement plus parce que ça représente monsieur tout le monde. Okay? Okay, ouais. Ça va représenter la moyenne de la population masculine. En tout cas.
Ouais. Puis pour les femmes, c'est compté à 160. Ah oui, c'est vrai, tu rentres pas ton sexe là-dedans.
Ben c'est la même chose. Okay?
Ouais.
Ça fait que c'est comme si quand les gens rament et qu'on compte en calories, okay? C'est comme si on prenait, on faisait faire des power cleans, supposons.
Okay?
Ou qu'on faisait faire des squats, n'importe quel mouvement d'haltérophilie. Okay? Puis qu'on prenait une plaque de 45 livres. Okay, puis qu'on disait, les gens en bas de 175 livres, on va la maquiller. Mais en fait, c'est une plainte de 35 livres qui est en dessous. Okay?
Ouais, ouais, ouais.
On triche, on désavantage les gens qui pèsent plus
que
175 livres.
C'est bon,
donc,
c'est...
moi, c'est pour ça que quand je fais travailler les gens, je les fais travailler non pas en watts, mais la mesure directe qui découle de ça, c'est en temps par 500 mètres.
Ah, tu prends même pas le wattage, hein?
Je prends le wattage, puis je le convertis, parce que le wattage, ça varie tellement, okay, que ça ne dit pas grand-chose. Okay? Puis c'est pas l'unité qu'on est habitué à utiliser. Tandis que si je te dis, ce qui vient du monde de la course à pied, que je veux que tu me fasses un 400 mètres, c'est-à-dire un tour de piste, en une minute, tu sais que tu t'embarques pour quelque chose d'assez élevé. Okay? Si je te dis qu'on part pour une minute et demie, on va avoir plus de plaisir à faire plus de tours.
Tu sais, on jase pour jaser, ça fait rire le monde en CrossFit. Il y a beaucoup de monde qui vont découvrir, on jase, il y a beaucoup de monde qui vont découvrir l'intensité en CrossFit. Donc, ils vont arriver, puis c'est juste qu'ils sont jamais poussés dans autre chose. Puis souvent, ils pensent que CrossFit est difficile à cause qu'ils sont poussés beaucoup, mais tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, le training le plus douloureux que j'ai fait de ma vie, c'est pas dire du CrossFit, c'est les intervalles de course, là. Ou est-ce que, tu sais, c'est juste meurt, là. Un bon vieux 800 mètres à l'autre, là. Hey! Bon, mon Dieu, une merde, là.
Ouais, mais c'est pas des systèmes, là. Tu, c'est des repeats.
Donc, ouais. C'est... Ah,
ok.
Ouais.
Quand tu fais, t'as 10, 400 mètres à faire, ok? 400 mètres on. Puis après ça, dépendamment du coach où t'es dans ta période d'entraînement,
tu vas faire
soit un 200, puis là, tu cours à travers la piste, tu reviens faire ton 400 mètres, OK? Tu sais, tu cours à travers la période de récupération, tu fais le tour au complet, tu fais un autre 400 mètres relax, OK? Puis après ça, tu repars pour un autre 400 mètres. Bien, sur la machine à ramer, moi, ce que je donne, c'est toujours par intervalle. Puis quand les gens me disent « qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? » À ce moment-là, je leur dis « quand vous êtes seul, faites des longues distances, OK? Faites un 6 km, faites un 10 km. Vous êtes vraiment tombé sur le top, vous voulez voir ce que ça donne, faites-moi une heure, OK? Ouais. » Mais quand je donne des cours, quand je donne des entraînements, c'est toujours des intervalles. Okay, je me base beaucoup sur les travaux qui ont été faits par Guy Thibault.
OK.
Ou qui a développé vraiment une structure d'entraînement par intervalle. Pourquoi? Parce que tu es capable de faire travailler les gens à leur PAM, à leur VO2 max, OK, pendant une plus longue durée en récupérant. Fait, on a des résultats assez intéressants en faisant des intervalles.
C'est plus efficace.
Regarde, un entraînement typique, qui, ça, c'en est un que les gens considèrent facile. Okay? Pourquoi? Parce que la récupération et les intervalles sont courts, puis la récupération plus longue que l'effort, c'est 28 fois 45 secondes d'effort à ta PAM. Okay? Pas all out, vraiment. On a mesuré ta PAM, on a mesuré, puis là, tu me fais ça 28 fois. Tu fais 7 fois. On va faire 45 secondes d'effort, 1 minute de repos, 45 secondes d'effort, 1 minute de repos. On fait ça 7 fois, après 7 fois, 3 minutes de repos, puis après ça, on recommence. On fait 4 séries comme ça. Okay? Ça fait 28 efforts. Oui, en bout de ligne, ça donne 21 minutes sur ta pente.
Ouais, c'est okay? Ça.
Fait que tu vas. Bon, on fait ça. Plus on avance dans la saison, à ce moment-là, on augmente la qualité des entraînements, c'est-à-dire qu'on augmente la durée. Comme on va faire 8 fois 500 mètres, OK? Ouais. Ça veut dire à peu près 8 fois 2 minutes et demie.
Quelque chose comme ça, ouais.
Pour les filles, puis 8 fois 1,50, 1,45 pour les gars, puis avec 5 minutes de repos. Ça fait que tu te tapes 1,45, 5 minutes de repos, 1,45, et t'en fais 8.
Et moi, je suis sûr que t'es quelqu'un qui suit un PAM comme ça, il va progresser. Mais comme tu dis,
c'est
tu
travailles
sa PAM, il faut que tu commences pour vraiment.
En partant.
Ça ramène à
faut
ça.
Faut se faire mal. Donc, tu vas venir faire ton 2 minutes.
Ok, ouais. Moi, il y a déjà le faire. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu partes avec ça. Tu sais, au-delà de tester pour tester, il y a une application réelle avec ce que tu me dis. Genre, on peut vous donner des améliorations, on peut vous donner un mot petit peu d'entraînement, on peut vous donner des résultats. Mais il faut que vous connaissiez cette affaire-là, il faut que tu connaisses ta PAM, il faut que tu connaisses tes trucs. Après ça, tu peux bâtir sur de quoi, tu sais.
Quand tu connais ton max, OK, ton squat,
tu
pars de ton max, puis à partir de là, tu construis ton entraînement.
Exact, c'est ça.
C'est la même chose, là.
C'est malade, la métaphore, ça, c'est vraiment cool. Y a-tu d'autres erreurs ou y a-tu d'autres trucs que tu vois purement. Tu n'es pas obligé d'en montrer ça, mais mettons, chez les gens qui utilisent la machine à ramer.
En fait, il n'y a pas d'erreur de crossfitter. Okay? Ouais. C'est une erreur de la population générale. C'est une erreur causée par la compréhension mécanique qu'on a. Je te disais, la première erreur la plus importante, c'est que les gens... en fait, le siège et la poignée doivent se déplacer en parallèle. Quand tu commences ton coup, là, et ce que les gens font, comme notre ami Sam, okay, ils chassent les fesses, puis après ça, la poignée suit. Le bout qui a perdu, c'est la puissance de ses jambons. OK?
Ouais. Fait que dans le fond, il sort les fesses.
Il sort les fesses en avant. OK? Bon. Ça, c'est une erreur majeure. L'autre chose, c'est que les gens vont commencer. En fait, c'est comme n'importe quel mouvement. Tu commences avec tes plus gros segments.
Ouais.
OK? Oh, les jambes. Après ça, on passe avec le tronc. Puis après ça, on finit avec les bras. Cette séquence-là doit être inversée au retour. Et souvent, les gens, parce qu'ils cherchent à aller trop vite, ne le font pas correctement. Faites juste écouter le nombre de chaînes qui claquent dans un gym de CrossFit. Quand les gens ramènent la chaîne par en arrière, ouais, c'est parce que les gens sont obligés de lever les bras pour passer en haut de leur genou.
Oh, fait que à chaque fois que la chaîne claque, c'est une erreur.
C'est une erreur, c'est une erreur technique.
Ah, OK, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. Okay.
Et il y a des places où il y a certains gyms qui sont... En fait, il y a certaines places où on fait juste des entraînements d'aviron.
Ouais.
OK, mais quand, on, quand la chaîne claque, OK, c'est 32 plus.
Ah ouais, ouais. Ouais,
ça
aurait
dû être une
technique. Ça aurait dû être. Ouais, c'est super ça. Fait que vraiment, le temps passé un peu plus là-dessus, c'est vraiment cool.
Fait que c'est ça, il y a 8 ou 9 erreurs, ça, c'en est une autre. L'autre, c'est que les gens, comme je me souviens plus si je te l'ai dit ou non, les gens reviennent, amènent les épaules vers l'avant au lieu d'amener la rampe vers le corps. Okay? À un moment donné, ils vont arrondir et ramener le corps vers l'avant. Encore une fois, il faut finir en force comme sur un. Comme sur un deadlift.
Ouais, c'est ça. C'est les mêmes concepts, c'est les mêmes
amants. Même chose.
Garder ton droit, c'est vraiment intéressant, ça.
L'autre chose, les gens ont tendance à, moi j'appelle ça, faire le tyrannosaure. Okay? Les gens ramènent, ils finissent avec les bras comme ça.
Ouais.
Okay? Au lieu de garder, et ce que ça fait, okay, ça va entraîner des contractions importantes au niveau des avant-bras. Okay? Et à un moment donné, moi je me souviens de ma première course d'aviron sur l'eau, on m'a littéralement détaché les mains d'après mon bâton.
Ah ouais.
T'es tellement nerveux, t'es tellement...
T'es tout
crampé. Et donc, ce que les gens devraient faire, c'est chercher à garder poignet et avant-bras droit tout le long du coup pour finir par en arrière. Okay? On ne veut pas se retrouver avec des ailes de poulet. C'est toujours l'idée de finir avec les omoplates qui reviennent.
Particulièrement dans un contexte de CrossFit, où est-ce que tu ne comprends pas juste du rameur? Tu vas avoir des affaires qui vont vraiment te demander de l'attention.
Oui, effectivement. Ça,
c'est intéressant ce que tu dis. Mm-hmm. Merci énormément d'avoir été là, Louis. C'était vraiment très cool. On va juste en profiter pour le plugger. Comme Louis en a parlé, moi j'en ai pas parlé tant que ça, mais comme Louis en a parlé, je pense qu'il y a un gros manque en CrossFit là-dessus. Louis donne des cours des entraînements, les deux en fait, donne des cours et des entraînements au Synergia de Trois-Rivières. C'est quand, cette année, tes cours?
Pour le moment, c'est les cours sont finis, les entraînements commencent le mercredi.
Okay. Si ça vous intéresse, puis vous voulez changer de niveau, puis vous voulez changer de game, mercredi soir au Synergia Performance, c'est là que ça se passe. Avant même qu'on termine, par contre, j'aurais peut-être une couple de petites questions rapides pour toi, parce que ça m'intéresse énormément. T'as un background olympique, t'es allé aux Olympiques en 76, en aviron.
Ouais.
Pour le monde comme moi, qui ne connaissent pas la différence entre un rameur et un aviron, peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi les technicalités du sport?
Il y a autant de différences entre être capable de ramer là-dessus, et de ramer sur l'eau, que de faire un leg press et de faire un overhead squat.
Tant que ça.
Okay? Techniquement, il y a autant de différences entre les deux.
Puis ça, à l'heure, ça imite un aviron?
Ça imite un bateau d'aviron. Des grandes embarcations longues avec les rames à l'extérieur.
OK. À la base, c'est censé imiter ça.
Okay. Ouais.
Et si tu utilises en kayak ou c'est vraiment...
Non, parce que le mouvement de kayak est vraiment plus spécifique que ça, mais il se vend des adaptateurs qui permettent de faire le mouvement de kayak.
Où
on va plus solliciter les rotateurs du tronc pour, pour faire quelque chose à ça. Il y a même des adaptateurs pour ceux qui font du canot, comme les gens qui font la classique. Il y a des adaptateurs qui permettraient de faire ça, ou les gens qui font du bateau d'Aragon, ils se vendent des adaptateurs pour imiter le mouvement du...
C'est bon, ça, vous
savez pas. Un coup de canot.
T'as commencé sur l'eau à quel âge?
J'ai commencé sous l'eau, j'avais 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner.
Je travaillais à 17 ans, t'as donc bien commencé tard.
Je m'entraînais avant, je faisais d'autres choses, mais à m'entraîner spécifiquement.
Pour ça, tu faisais quoi avant?
Je jouais au tennis, je faisais de la course à pied, je faisais un petit peu de muscu, des choses comme ça, mais j'ai découvert le sport, l'aviron. Je travaillais dans un camp de vacances comme cuisinier. Et le matin, pendant que moi je touchais des patates ou que je préparais des œufs à 5h30 le matin, en 1970, je suis le grand-père quand je dis ça, c'est pointable. Il y avait le championnat du monde avait lieu à St. Catharines en Ontario et l'équipe française s'entraînait à la base de tonnerre du Petit Bonheur. Moi, j'étais en face au camp Jeunère, je travaillais dans la cuisine au camp Jeunère.
C'est où ça, le camp Jeunère?
C'est Lac Carré, Lac Supérieur, c'est dans, le, dans okay, les, dans les Laurentides. Oui. Okay. C'est pas au sud de Tremblant, si tu veux.
Oh, ouais.
Ah. Et je les voyais sur l'eau le matin, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment, vraiment accroché, je trouvais ça tellement beau. OK? C'est un petit peu non, mais romantique aussi. Tu sais, je veux dire, t'as le beau plan d'eau, il y a, souvent il n'y a pas de vent à cette heure-là, le soleil se lève à quelle heure? Il était à 5h30, il est à 6h,
il était
sur l'eau à 6h.
Okay? Ah, ouais.
Puis les moniteurs ont pu y aller. Moi, compte tenu des horaires que j'avais, j'ai pas pu essayer ça. Okay? Puis en sortant du camp, il y a un gars qui dit « Hey, on commence à s'entraîner, on essaye de faire l'équipe du Québec l'année prochaine.
Okay. »
Et j'ai commencé à m'entraîner sans avoir mis le pied d'un bateau, sérieusement. Le premier...
C'est marrant, ça!
Le premier hiver, à 16 ans, le soir de Noël, okay, ouais. Je faisais de la musculation dans un... On n'avait pas de place pour s'entraîner dans le temps.
Ça fait capoter, c'est le monde qui chiale sur l'aménagement des gyms avant. L'évolution n'a juste pas rapport.
Il n'y avait même pas de gym.
Non, okay. C'est ça.
Là, moi, j'étais dans la petite salle où le concierge de l'école, mon école primaire, je connaissais le monsieur parce que j'avais été à l'école primaire là.
Ah oui.
Et on nous permettait de mettre nos poids là. OK? Fait qu'on s'entraînait dans l'espace.
Oh, wow. D'entrée. C'est malade, ça.
Le soir de Noël, le 25 décembre, je me souviens encore du 31, le 31 ouais. Décembre, moi puis mon partner d'entraînement de l'époque,
ouais.
On s'entraînait là.
OK, c'était valable ça. Puis ça t'a pris combien? T'es allé aux Olympiques, t'avais quel âge?
J'avais 23 ans.
OK, hey, mon Dieu, parce qu'il y a ça quand même.
Ben, c'est 6 ans.
6 ans d'entraînement.
C'est un cycle olympique.
C'est ça, un cycle olympique?
En fait, un cycle olympique, c'est 4 ans, mais c'est bien rare que tu peux embarquer direct.
Non, c'est ça.
En 72, là. Je regardais les jeux à Munich avec un chrono dans mes mains pour regarder les cadences à laquelle
je ramais. Là, c'est malade, ça. Ouais. Fait que t'as vraiment accroché automatique.
J'ai accroché en 70. J'ai commencé à m'entraîner à l'automne 70.
Y a-t-il un moment où tu t'es dit, OK, je peux me rendre aux Olympiques, je suis capable d'y aller? Ou y a-t-il un déclic à venir? Comme tout, t'as eu l'intention de te dire, j'aimerais ça y aller?
T'as toujours ça en arrière de la tête.
Mais ouais, c'est clair.
Tu le dis pas en partant. Mais en quelque part, après les Jeux du Canada en 73, puis les Jeux du Canada qui avaient lieu à Burnaby, dans le coin de Vancouver,
ouais.
On a eu une très mauvaise expérience parce que un mois avant, justement, on s'en allait au championnat canadien et on était tous les athlètes de l'équipe du Québec dans une école de l'Inde et la remorque avait tourné en arrière, puis on a pris le champ. Moi, dans ce temps-là, je ramais un deux barré, c'est-à-dire deux rameurs avec une seule rame chacun, okay, puis un barreur. Moi, j'aimais ça comme embarcation parce que c'est un bateau qui est lourd, où ça donne. Moi, je ne suis pas explosif. Okay? Je suis fort, mais je ne suis pas explosif.
Okay?
Mais c'est un bateau que j'aimais pour ça, parce que les cadences étaient plus basses, là, mais on était comme guéré plus lourd. Okay? Oui, puis tu traînes la moitié de ton barreur aussi. Okay? Et mon partner de deux barrés, okay? On a pris le champ, les portes ont ouvertes, il s'est fait déchirer un ménisque. Les gens qui étaient nos dauphins au Québec ont fait le deux barrés. Okay? Ils sortent de là avec une médaille d'argent.
Puis il y a un accident sur la route en volant.
Non, c'est en y allant. Okay? Ça fait que moi, j'ai pas pu faire compétition. Ouais. Okay? J'ai fait la compétition, mais les gens qui restaient, qui n'étaient pas blessés,
ouais.
Okay? On a fait des bateaux de composition, okay? Ou du monde qui n'avait pas souvent ramé ensemble. Puis je ressors quand même avec deux médailles de bronze au jeu du Canada.
OK, ouais.
Tu dis, peut-être. Okay? Puis en 74, c'était les Panames. Puis on s'est vraiment planté pour la sélection pour les Panames parce que, comme regarde, l'exemple, c'est que je faisais une compétition en Allemagne le samedi. Le mercredi d'après, on prenait l'avion. On revenait à Montréal, on revenait pas à Montréal, on a débarqué à Montréal, j'ai ramassé d'autres linges, on a repris l'avion, puis on était à Vancouver, puis la regarde était le samedi.
Le décalage horaire, c'est pas quelque chose d'idéal.
On s'est planté là. On menait la course jusqu'à 1500 mètres, puis à 1500 mètres, je sais pas qui, mais qui est arrivé quelqu'un avec un bâton, là, puis il nous a frappé dans le dos. Plus de jus, plus rien qui sortait. C'était épouvantable.
C'était sur 2000 mètres encore?
C'est toujours 2000 mètres.
Toujours 2000 mètres.
Et donc, je n'ai pas été sélectionné pour les Panames. Là, tu as une hésitation. Puis là, en même temps, ça donne un coup de pied au derrière.
Ah oui, c'est ça.
Tu rembarques sur ton entraînement, puis finalement, c'est ça, la sélection s'est faite pour l'équipe, pour les championnats du monde.
Ah, moi, je pensais que c'est les Panames et les championnats du monde. Je l'ai vraiment souvent qualifié le monde aux championnats du monde, c'est pas ça?
Non, parce que ça dépend des moments. Il y a certaines disciplines, oui, il y a certains moments, non. Ah, mais tu peux comme te reprendre, OK?
Okay.
Et c'est difficile à l'aviron d'avoir des standards parce que t'es pas dans un. Prenons le patinage de vitesse longue piste.
Okay? Ouais.
Où les standards, les pistes, t'es en dedans, à moins d'être en altitude, il n'y a pas de différence. Mais quand tu rames, okay, que ce soit en canot-kayak de vitesse, que ce soit ou en canot ou en kayak de vitesse, que ce soit à l'aviron à l'extérieur, tu as le vent.
Il y a des variables.
Il y a des variables. Il y a certains bassins où il y a des courants dedans. Tu fais les standards, tu as comme d'autres chances à un moment donné. Et l'équipe des coachs vont dire, compte tenu des conditions cette journée-là, on rajoute tant de temps au standard ou on enlève tant de temps au standard. Fait qu'on a réussi à faire les standards. Okay. On a fait les championnats du monde en 1975.
Qui était où?
Qui était à Nottingham, en Angleterre.
T'avais quel âge quand t'avais là, tu m'as dit 20?
22 ans.
22 ans, championnat du monde, mon Dieu, comment qu'on se sent?
On se sent très jeune.
Ah ouais.
Et les rameurs performent à 27-28
ans. OK, fait que t'étais jeune.
Oh non, on était très jeune. C'est pour ça que quand tu regardes nos résultats au niveau mondial, on a fini loin, loin, loin en arrière. Okay. On était dans le brume. Mais si j'avais eu l'opportunité, bon, puis c'est une question financière en arrière de ça, encore une fois, aujourd'hui, puis je suis pas.
Le monde réalise.
Je suis pas, envieux des athlètes d'aujourd'hui, mais mon doute, j'aurais aimé savoir leurs conditions dans le temps. Comme ce que j'avais. Ça, cette machine-là, j'aurais tendance à avoir ça pour m'entraîner. Okay, parce que ça me donne un chiffre, okay, comme un moniteur cardiaque. Là.
Ouais. Vous entraînez comment avant?
L'hiver, je courais. Okay. J'ai tellement couru l'hiver. Ça m'a pris 7 ans mais à courir.
Ouais. Okay. T'as comme 5 mois dans l'année où est-ce que ton training n'est pas spécifique à ce que tu fais.
Pas spécifique à ce que tu fais.
C'est gros, là, comme un athlète, là.
Et même le bassin olympique était prêt en 75, OK? Et il y a même un bassin intérieur, OK? Avant que les machines à ramer existent, il y avait des bassins à l'intérieur où le siège est fixe, puis tu rames avec des rames en broche, OK? Puis tu bloques la broche de plus en plus, ça fait que ça augmente ta résistance. Okay. Tu es capable de doser ta résistance en fonction du type de bateau que tu rames. Un 8, tu vas avoir. C'est plus vite comme embarcade. T'es 8 chevaux à pousser le bateau.
Ça,
ouais. Tandis que si tu rentres un 2 barré, ben à ce moment-là, les sensations, c'est plus lourd ce que tu as comme sensation. Et on nous a pas permis d'utiliser ces installations.
Comment ça?
Parce qu'il fallait payer des gardiens, parce qu'il n'avait pas été utilisé qu'on les gardait propres pour les championnats du monde junior qui avaient lieu en 75.
Sérieux? Ouais. Hey, ça n'a pas de sens, ça.
Fait que moi, je n'ai pas ramé avant 76 dans le bassin olympique. Okay?
Puis tu as fini. C'est quand tu as terminé ta carrière de
ramé? J'ai fini en 77, OK, mais ma carrière de compétition de haut niveau, là, c'est en 76. J'ai fini avec les Jeux.
Ah, ça, c'est malade. C'est vraiment cool comme histoire. Fait que tu arrives aux Olympiques. T'as 23 ans, les gars autour de toi ont 27, puis ça marche comment dans le fond? T'es arrivé la veille, t'es arrivé comment?
On t'habite au village olympique.
Ah oui, c'est vrai.
Même si j'habitais, moi j'étais Boucherville, fait rien.
Tu fais Boucherville?
Moi je suis Boucherville. Fait que t'es séquestré au village olympique, ok? C'est une séquestration qui est bien plaisante.
Ouais,
c'est ça. De vivre l'expérience avec les autres athlètes alentour.
Ouais.
Puis tu vas t'entraîner au bassin, puis tu reviens au village, puis tu manges au village, puis il y a la vie de l'équipe. Mais cette vie-là était amorcée avant, en 76, en janvier 76, de ma poche, j'ai payé pour aller m'entraîner en Floride. Parce que le camp d'entraînement de l'équipe canadienne commençait juste au mois d'avril à London, en Ontario. Fait qu'on était un groupe d'athlètes qui ont décidé qu'on payait, la Fédération québécoise en a payé une partie, mais nous autres aussi, on a mis de l'argent pour pouvoir aller s'entraîner en Floride, pour pouvoir ramer. En fait, on a commencé à s'entraîner à Philadelphie.
Okay.
Le seul hiver où la rivière, la Schuylkill, la rivière à Philadelphie, la rivière a gelé. Puis là, les Américains, les Américains disaient que c'est à cause de nous autres qui a ramené le front froid canadien. Puis après ça, on est descendu en Floride, puis on s'est entraîné 2 mois en Floride.
Ouais.
Puis après ça, on est remonté au Canada s'entraîner. Et comme là, ça a allongé la période d'entraînement, mais on ne peut pas se permettre ça.
Comme tu dis, ça montre de quoi quand même? Là, tu parles de t'es rendu aux Olympiques dans un sport où est-ce que tu peux ramer combien de temps au Québec dans un Olympique?
Moi, j'ai ramé avec de la glace au printemps, puis j'ai ramé avec de la glace à l'automne sur mes rames.
Okay.
Ça veut dire que tu peux partir.
Mais dès que ça dégèle un peu.
Dès que ça dégèle. Sur un bassin, dès que ça dégèle, tu peux ramer. Mais sur un plan d'eau, OK, comme moi je ramais en Floride, ben un plan d'eau, tu peux ramer sur un lac, tu peux ramer sur une rivière. Okay. Moi, je ramais sur le fleuve en Floride.
Okay.
En face des îles. Et fallait attendre que le bois arrête de descendre. Okay, parce que tu as toutes les cochonneries de la crue du printemps.
Ouais, c'est ça.
Fait, fallait attendre que le bois arrête de descendre, puis là, on commençait à ramer dans des bateaux avec des barreurs qui pouvaient checker ce qu'il y avait en avant. Puis plus tard dans la saison, là, à ce moment-là, tu tombais dans un bateau tout seul, un skiff.
Ça fait qu'on parle d'un 6-7 mois.
Genre, ouais.
T'as un peu plus.
Ouais.
OK. C'est pas beaucoup quand tu rames 6-7 mois pour ton sport.
Oui, mais tu regardes les Danois actuellement. OK. Ouais. Le Danemark, en passant, c'est un pays gros comme le Québec. Pas en termes de superficie, là, mais en termes de population. OK. C'est 2 millions de personnes. OK. Et ils ont un coach dont je m'inspire, en fait, mes entraînements sont basés sur 2 choses.
Ah, oui.
C'est basé sur des travaux de Guy Thibault et c'est basé sur 5 nombres d'or que le coach Jensen du Danemark.
C'est quoi des nombres d'or?
Mais je vais arriver à ça.
Vas-y.
Donc, c'est 5 chiffres-là qui ont été développés par ce coach-là au Danemark. Et le Danemark est un pays gros comme nous autres, OK? Produit des champions olympiques en grande quantité.
Ah ouais.
C'est étonnant. Pourquoi? Parce que maintenant, ils passent leur temps, ils font du travail de qualité sur la machine à ramer. À partir du moment où ils vendent trop dehors, on oublie ça. On va pas ramer dehors, on va faire du travail de qualité à l'intérieur. Ils font beaucoup de travail sur la machine à ramer. Puis, ils vont faire leur travail technique dans l'autre ciment. Dans le travail d'équilibre, le travail de travailler en équipe.
Une périodisation plus conventionnelle de
oui, sport. Oui, t'en plein ça. Ouais. Fait que Jensen, ce qu'il dit, c'est il fait faire 5 distances à ses athlètes pendant 2 semaines. Okay? Puis il fait faire ça 3-4 fois par année. Puis c'est avec ça. Moi, ce que je fais, c'est un hybride de ça. Parce que je veux pas écœurer les gens au gym. Fait que ce que je cherche à leur faire faire, Jensen, il dit 10 secondes, 1 minute, 2000 mètres, 6 km et 1 heure.
10 secondes?
10 secondes, OK? C'est un indice de puissance.
Okay?
Et tu installes quelqu'un en arrière et tu me feras penser. La première chose à faire quand on s'assoit sur une machine à ramer, c'est pas venu dans notre conversation, c'est une chose que je voudrais.
Vas-y. Dire au plan.
Donc, 10 secondes, tu regardes le wattage que tu es capable de sortir. 1 minute, tu regardes ce que tu es capable de sortir. La même chose pour 2 km, pour 6 km, puis une heure. Ce que lui dit, il a fait des tests avec des athlètes de haut niveau. C'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les poids lourds, c'est bon pour les poids légers. Ce qu'il dit, c'est que ces nombres-là sont toujours pareils. Okay? Si tu es capable, ton 2 km représente ta perte, okay? 100% de ton effort.
Ouais.
Ta minute devrait représenter 153%. On parle en watts. Là, okay? Si je sors 200 watts, okay? Ce qui n'est pas élevé en passant, si tu sors 200 watts, c'est juste pour que les chiffres se comprennent plus facilement, mais je devrais sortir 153% de 200 watts quand je fais une minute, puis je devrais sortir 173% de 200 watts quand je fais 10 secondes. Okay? Puis quand je fais mon 6 km, je suis à 85% du wattage que j'ai fait sur mon...
Ça peut être de spotter les trous potentiels.
Tu es en plein ça, puis tu vois, chacun tu fais ton heure, okay? Mais c'est 76%. Fait qu'entre un 6 km, qui fondamentalement devrait tourner entre 22 et 24 minutes. Un peu moins.
C'est vite, c'est ça. Moi, je suppose que c'est complètement pas sérieux.
Et l'heure, okay, ça, c'est 85%, 20 minutes.
Ouais.
Tu tombes juste à 76% pour ton heure. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu as un bagage d'endurance en arrière qui te permet, après ça, d'aller chercher, quand tu te diriges vers la puissance, là, que 2000 mètres, tu es au seuil anaérobique. Tu es vraiment sur le seuil. Tu es juste à la limite. puis les autres, tu es plus en puissance.
OK.
Fait qu'avec ces cinq chiffres-là, tu es capable de construire un programme pour un athlète, que ce soit un programme de CrossFit, que ce soit un programme pour voir en termes, OK, je m'en vais faire une compétition de CrossFit qui dure deux jours. OK. Mes premières épreuves sont super bonnes. Je casse toujours ces deuxièmes. Ma deuxième journée, la deuxième moitié de journée, là, tout le monde baisse, là, mais moi, je casse. Pourquoi? Ça peut être soit une question d'endurance musculaire, soit une question d'endurance cardiovasculaire. Okay?
C'est important. C'est la composante négligée, je pense. C'est important ce que tu dis.
Bon, une fois que tu as assis ça, là, à ce moment-là, tu peux construire, tu peux aller travailler tes puissances, tu peux aller travailler tes max.
En fait, si je ne me trompe pas, je pense que dans la pyramide du CrossFit de Greg Glassman, je pense que l'endurance cardiovasculaire, c'est la première affaire à développer. Si je ne me trompe pas.
Mais c'est vrai partout.
Oui, c'est vrai
partout. Regarde ce qu'on fait avec les jeunes qui commencent à s'entraîner. Vous voyez? Regarde ce qu'ils font dans la fédération cycliste. Okay? Ils limitent les pignons, le guérage, comme on dit en latin, qu'ils ont le droit d'utiliser. Okay?
Okay.
Moulin, mon jeune, tu forceras plus tard. Okay? Fait qu'ils limitent ça en fonction des catégories. Fait que c'est comme un petit peu la même chose.
Ils vont parler de c'est quoi la chose la plus importante à faire dans la rampe? Quand on assoit sur la rampe?
C'est de régler l'appareil pour soi. OK? Pour chaque personne. Il n'y a pas deux personnes qui ont les pieds de la même longueur, qui ont la même flexibilité au niveau des chevilles et des hanches.
Ouais.
La première chose à faire, c'est de s'assurer de régler le calpier, de jouer avec le morceau qui fléchit, là.
OK? Okay? Ouais.
Et de jouer avec ça de façon à ce que les orteils arrivent à peu près, sur le morceau, il y a 3-4 lignes, là, que les orteils arrivent en arrière de ça. Ça, c'est un indice. Mais ce que vous devriez faire en ramant, c'est ramer avec quelqu'un d'autre à côté et vous assurer que quand vous ramez, vos tibias ne dépassent pas la verticale. OK? L'alignement entre le genou et la cheville.
Rendu à la fin du mouvement.
Oui, parce que sans ça, c'est comme surcompressé sur un squat.
OK, ouais.
OK? Fait que ce qu'on veut, on a la possibilité d'éviter ça là-dessus. Okay?
Ouais.
Fait que c'est ça qu'on cherche à faire. Fait qu'il faut que le tibia devienne vertical.
Mm-hmm.
Si le tibia n'est pas vertical, jouez avec. Descendez-le pour avoir plus de flexibilité, puis montez-le pour limiter votre flexibilité. Donc, le tibia devient vertical. Deuxième chose, c'est que les jeunes s'entraînent avec des charges beaucoup trop importantes sur la machine à la main.
Okay. Okay. La résistance
qui est sur le côté, là.
Ouais.
Okay. J'ai vu tellement de monde craquer ça à 10.
Ouais.
Okay. Et s'ils veulent faire de la musculation, prenez une barre, les amis, c'est bien plus simple. Okay. Et,
c'est bon, c'est bon.
Le champion du monde, okay, il était battu dernièrement, okay, mais la personne à laquelle je faisais référence, c'est un gars qui s'appelait Waddell, okay, un Nouveau-Zélandais. Un délicat jeune homme qui faisait 2 mètres et qui pesait 103 kilos. Il rampe.
Rempli de finesse.
Okay. Techniquement, il est assez rempli de finesse.
Ah,
c'est
ouais?
Assez impressionnant de voir ramer. Lui, il rampe en quelque part aux alentours de 6.
OK.
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 Fait que je ne comprends pas pourquoi les gens rament plus fort que ça. Et ça, c'est un indice. Okay? La vraie façon de le mesurer,
il
faut aller fouiller un petit peu dans le computer. Il y a quelque chose qui s'appelle le facteur de résistance.
C'est quoi le facteur de résistance?
Le facteur de résistance, c'est la vitesse à laquelle la roue de... La grosse roue en avant qu'on voit là, en avant de la machine à ramer. En dedans de ça, il y a une roue d'air. OK? E2R, en français, on dit un flywheel.
Ouais.
Okay? Un flywheel
en bon français.
qui est en fonte d'aluminium, okay, qui pèse à peu près 30 kg, et qui a des palettes de
30 kg, quand même.
Oui, oui, oui. Mais c'est parce que c'est ça qui est plaisant, parce qu'à ce moment-là, il y a une inertie, puis ça permet que quand tu reviens, il ne retombe pas à zéro. Okay? C'est le poids du flywheel en avant qui fait que quand tu reviens en avant, tu ne retombes pas à zéro, que tu as déjà une vitesse qui
est bon, ça. Ouais.
Mais ça se salit par la poussière qu'il y a dans le gym.
Ouais.
Et Dieu sait qu'il y en a.
Okay?
Et avec ça, chaque machine devient différente. Fait que moi, ce que je recommande aux gens, okay, c'est de ramer chez les hommes, okay, avec un facteur de résistance de 125. Ce qui devrait donner, dépendamment des machines, en quelque part entre 4 et 5.
Okay.
Okay? Et chez les femmes, de ramer aux alentours de 110-115. Okay? Ce qui va donner un facteur de résistance en quelque part entre 3 et 4. Ça diffère vraiment des machines. Puis il y a des machines qui sont plus vieilles dans des gyms, là, où pour aller chercher le même facteur de résistance, tu vas en mettre une à toi, puis tu vas mettre l'autre à 5. Okay. C'est pour ça que c'est important
c'est
de régler
ça
au départ.
Ouais.
Si tu veux avoir le même feeling d'une fois à l'autre, puis si tu veux être capable de donner un effort maximal cardiovasculaire d'une fois à l'autre.
OK. Phénoménal. As-tu d'autres points à installer avant de...
Non, c'est les deux choses, c'est deux choses à régler.
C'est vraiment intéressant parce que c'est pas fait. Moi, j'ai jamais vu personne faire ça. J'ai vu beaucoup de gens qui font du CrossFit justement juste avec ça. Ouais. C'est le temps sans se poser vraiment de questions. Si je mets à 10, mes calories vont descendre plus vite.
Tes calories vont descendre plus vite, OK? Mais tu seras pas capable de ramer correctement. Okay? Ça prend une impulsion, ça prend une explosion au départ. OK? Ouais. Si t'es à 10,
c'est vrai que tu peux pas vraiment.
Prends-moi une barre, fais-moi un deadlift à 565 livres ou à 465 livres.
Ouais.
Okay? Techniquement, ça ne sera pas fort ton affaire. Okay? Puis si je te demande d'en faire plusieurs, même en délestant ta barre, okay? Techniquement, ton affaire ne sera pas correcte. Fait que c'est la même chose. Là. Apprenez à ramer correctement à cette charge-là. Si bon, les gens au championnat du monde, ils travaillent à des intensités de cette nature-là. Tu sais, ils ne dépassent pas Waddell, quand il a fait son record du monde, 526. 526, je pense, si je me souviens bien. Ça, c'est 575 watts. Okay? C'est du wattage, les amis.
Hey, ouais,
c'est énorme. Regardez ce que vous êtes capable de sortir sur wattage. C'est comme un wattage. Ce que ça veut dire, là, c'est 1,25 par 500 mètres. Okay? Il a fait 4 fois okay? 1,25, un derrière l'autre.
C'est...
Non, il a fait ça sur un machin là-dessus. Okay. Okay? Ouais. Puis si vous voulez vous comparer, allez voir sur le site de Concept 2, là, il y a un ranking qui est là. C'est assez intéressant.
Tu sais, t'en as parlé tantôt, puis je pense que c'est intéressant aussi. Je pense que c'est important pour le monde parce que la majorité n'ont pas leurs chiffres. Ils ont pas, tu sais, tout le monde connaît leur squat, tout le monde connaît leur dead, mais le monde ne connaît pas ces chiffres-là. Comme tu le dis, ça fait une différence. Mm-hmm. Je pense que c'est important. Hein. Sur ça, merci énormément d'avoir été là. Oui, c'était vraiment, vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver à Trois-Rivières sur, au Synergie Performance pour les.
Synergie Performance.
Synergie Performance. Allez voir un tour si vous voulez ramener. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bon ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant. Puis ça peut bénéficier, comme on en parlait vraiment beaucoup de façon, je pense. Sur ce, merci beaucoup de monde d'avoir été là. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Puis on se revoit la semaine prochaine, gars.
Hey, merci beaucoup de vous être rendu jusqu'à la fin du podcast. C'est très apprécié. Juste un petit rappel, si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles, un review positif. Ça fait vraiment une grosse différence en visibilité. Ça permet à plus de gens de découvrir le show. Donc, merci pour ça. Mais cette semaine, je vous laisse pas... uniquement sur cette note-là. Cette semaine, peut-être une chose un peu spéciale à vous dire aussi. Louis est impliqué dans une fondation qui s'appelle la Fondation sur la pointe des pieds, qui est une fondation qui aide dans le fond les jeunes qui sont atteints par le cancer à retrouver leur bien-être en relevant genre des défis d'expédition, d'aventure thérapeutique. C'est vraiment, vraiment cool ce qu'ils font. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite fortement à vous rendre sur le site web de la fondation qui est pointedespieds.com où est-ce que vous pouvez faire des dons et en savoir plus aussi sur la fondation. Et ce, bonne fin de journée tout le monde.